Donc nous vous adressons toutes nos salutations en Jésus-Christ. Nous sommes toujours très heureux de revenir dans notre Église. Nous remercions les uns et les autres pour leurs prières, l'Église pour son soutien fidèle, financier fidèle, qui nous permet de poursuivre notre ministère en Côte d'Ivoire. Je vous invite à prendre dans le livre de la Genèse au chapitre 12 l'appel d'Abraham, les 9 premiers versets, Genèse 12, 1 à 9 d'abord. Genèse chapitre 12, les 9 premiers versets de ce chapitre concernant l'appel de Dieu adressé à Abraham. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et lui dit, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le nom d'Abraham ici, apparaît environ 300 fois dans les écrits prophétiques. Et le récit de sa vie ici est consigné dans 13 chapitres du livre de la Genèse, de 12 à 25. On sait qu'il est appelé le père des croyants. Jacques, dans sa lettre, l'appelle l'ami de Dieu. Et donc l'histoire de l'humanité commence ici avec l'appel d'Abraham, qui est de la descendance de Sem, un sémite. Quand Dieu l'a appelé à quitter son pays pour aller donc à la terre promise où la bénédiction devait lui être donnée en abondance. Il vivait donc à Ur, en Chaldée, Irak actuel, où se trouvait donc Babel, la tour de Babel, Babylone. Quand à 75 ans, Dieu l'a appelé à tout quitter pour faire de lui donc l'ancêtre spirituel de tous les croyants. En contrepartie de ce qu'Abraham va abandonner pour obéir à Dieu, donc trois choses, son pays, sa patrie, sa famille, Dieu lui promet aussi trois choses, la bénédiction, une grande postérité, et surtout d'être un sujet de bénédiction pour toutes les nations de la terre, par Jésus-Christ donc, son descendant. Pour ce faire, Abraham abandonna la religion de ses ancêtres, pour faire confiance à Dieu, et en échange de ce qu'il avait volontairement abandonné, Dieu lui donna un nouveau pays, Canaan, une nouvelle famille, donc Israël, une partie de sa descendance. Marcher par la foi, comme le fit Abraham, donc a un prix. On doit abandonner les choses de ce monde en ayant l'espérance des biens à venir, qui eux sont éternels. Ce qui nous concerne, nous les fils spirituels d'Abraham, père des croyants, c'est qu'Abraham a été, à partir du moment où il a quitté sa patrie, sa famille et sa religion d'origine, il a été un pèlerin, un voyageur. Hébreux 11 nous répète, comme la première lettre de Pierre, que le chrétien est aussi un pèlerin, un voyageur, un passager. Le monde étant corrompu, le chrétien qui vit dans ce monde connaîtra inévitablement, s'il est fidèle, comme Paul le dit à Timothée, que tout chrétien fidèle sera persécuté d'une façon ou d'une autre, inévitablement le chrétien connaîtra des difficultés et même des formes de persécution. Nous voyons dans Actes 7, Luc nous dit que Abraham, quand il a quitté Ur pour aller en Canaan, a fait une escale à Charan, où son père est décédé. Ce qui peut nous enseigner qu'il fallait qu'Abraham entre seul dans le pays de Canaan pour se détacher totalement de sa religion d'origine, après la mort donc de son père, Terah. L'appel d'Abraham était personnel, strictement individuel, comme l'est d'ailleurs la conversion et la vie chrétienne. La relation verticale avec Dieu, qui est totalement personnelle, individuelle. Il a fallu qu'en cours de route, le père d'Abraham décède pour qu'Abraham entre seul dans le pays de la promesse. Son père aurait été un obstacle à la mission que Dieu a confiée à Abraham d'abandonner sa culture chaldéenne. De même, on ne peut pas persévérer dans la foi chrétienne si on ne réalise pas que l'appel de Dieu et la vie chrétienne sont avant tout une question de relation personnelle avec Dieu. De même, on voit l'apôtre Paul, quand Dieu l'arrêtait sur le chemin de Damas, quand il persécutait les chrétiens, ceux qui l'accompagnaient ont vu la lumière éclatante, aveuglante, qui a fait tomber de cheval Paul, mais ils n'ont pas entendu la voix. Paul a été le seul à entendre distinctement la parole de Jésus, qui s'adressait à lui et non pas aux autres persécuteurs des chrétiens qui étaient là aussi. En ce qui nous intéresse dans ce passage, ce sont les versets 7 et 8, qui nous répètent qu'à chaque escale, Abraham bâtissait un autel. Il était l'adorateur du vrai Dieu, et l'autel est le symbole de l'adoration que l'on doit au vrai Dieu. Il nous est dit aussi qu'Abraham, verset 8, dressait ses tentes de lieu en lieu. Il était nomade, il était pèlerin. Et cela illustre sa foi, il s'abandonnait totalement à Dieu, et aussi la vie chrétienne, car nous devons apprendre à nous détacher des choses, des biens matériels, des choses de la terre, ayant, comme Abraham l'avait spirituellement, une tente, le signe du pèlerinage, et l'autel, le signe de l'adoration que nous devons à Dieu. L'autel illustre donc notre relation verticale avec Dieu, et la tente, notre relation horizontale avec les frères en Christ, avec notre prochain. Et cette relation est passagère, éphémère. Elle passera comme le monde et comme la convoitise aussi passe, comme Jean nous dit dans sa première lettre, 1 Jean 2, 17. Abraham, comme avant lui, Abel, Seth, Enoch, Noé, l'avait fait aussi de bâtir des autels. Lui aussi a reconnu, comme ses prédécesseurs croyants, que le sacrifice vivant est le seul moyen pour régler la question du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La loi du talion nous dit vie pour vie. Pour que nous, pécheurs qui méritions la mort, nous héritions de la vie éternelle, il faut absolument un sacrifice vivant à notre place, qui soit offert donc à Dieu. Romains 6, 23 nous rappelle que tous nous méritons la mort, puisque spirituelle et physique, car tous nous sommes pécheurs. Abraham, quand il est arrivé au pays de Canaan, a connu encore une épreuve, celle de la famine. Ce qui nous enseigne aussi que les difficultés et les épreuves ne manquent pas sur le chemin de la vie chrétienne, car nous vivons dans un monde corrompu, de plus en plus corrompu. On voit les actualités hier encore concernant l'homosexualité en France, aux États-Unis. Sodome et Gomorre qui s'installent partout. Et il ne faut pas que nous soyons comme la grenouille qui se laisse ébouillanter dans de l'eau que l'on chauffe au fur et à mesure, alors que si on la jette dans un récipient d'eau chaude, elle va aussitôt en ressortir, comprenant qu'elle ne peut pas supporter cette température. Mais si on fait monter doucement la température, elle se laissera ébouillanter sans réagir. Et c'est le danger de tout chrétien. La société se dégrade de plus en plus autour de nous, à tous les niveaux, mais on risque bien de ne pas en prendre réellement conscience si on n'a pas vraiment un discernement aigu. Donc Abraham, malheureusement, là, a fait l'erreur de descendre encore plus au sud, en Égypte, pour chercher de la nourriture. Là, il s'est trouvé contraint de mentir sur l'identité de sa femme, en disant que c'était sa sœur, ce qui était à moitié vrai d'ailleurs, parce que c'était sa demi-sœur, Sarah. Mais il l'a fait passer pour une autre personne que sa propre épouse, ayant peur des pharaons. Et là-bas, il n'avait plus sa tente, il n'avait plus son hôtel. Heureusement, Dieu, dans sa bonté, lui a permis de retourner encore au pays de Canaan. Dieu ne laisse pas les croyants s'égarer longtemps loin de lui. Dans sa bonté et sa miséricorde, Dieu l'a fait sortir d'Égypte, parce que dans la Bible, en langage prophétique, Égypte et Babylone représentent le monde païen idolâtre. Et Dieu l'avait envoyé en Canaan et non pas en Égypte. Et nous aussi, nous avons toujours ce danger, ce risque devant nous d'être entraînés vers les richesses de l'Égypte, c'est-à-dire de ce monde. Alors que nous devons au contraire avoir notre tente et notre autel pour adorer le vrai Dieu et être détachés des biens de ce monde. Jean nous dit dans sa première lettre, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Chapitre 14, je lis les quatre premiers versets, Genèse 13 d'abord. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dieu merci, donc Abraham est retourné au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il a retrouvé son autel et il y a retrouvé aussi sa tente. Il est redevenu l'adorateur du vrai Dieu et il est redevenu le pèlerin. Dans toute la Bible, Dieu nous ordonne la séparation d'avec le paganisme du monde. Or, tout croyant est tenté de retourner dans le monde. Comme il y a des foules dans nos églises en Afrique, bien sûr, nous voyons aussi certains quitter les églises fidèles pour aller en rejoindre d'autres qui leur conviennent mieux, là où on leur promet la prospérité sans jamais parler de la foi, de la repentance, de porter sa croix, du bon combat qu'on doit mener, de la persécution qui nous attend, sans parler de sanctification, de consécration. On ne retient seulement que les bénédictions matérielles que Dieu promet aussi de temps à autre dans sa parole. Lot marchait par la vue, on le sait, verset 10. Lot leva les yeux, je suis toujours dans le chapitre 13 de Genèse. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La vallée au sud de la mer Morte ressemblait à l'Égypte. Et Lot, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'Égypte, les richesses de l'Égypte qu'il pouvait retrouver dans la vallée de Sodome. Il est le type du croyant charnel, convoitant les richesses de ce monde. Le cœur de Lot était rattaché encore à l'Égypte, comme celui de sa femme, restera attaché à Sodome pour sa perte d'ailleurs. Au verset 14, on voit que dans le même chapitre qu'Abraham aussi a levé les yeux. L'Éternel dit à Abraham, verset 14, « Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Verset 18, « Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. » Au verset 18, dans la nouvelle demeure d'Abraham, le nouveau lieu d'habitation, on retrouve encore sa tente et son autel. Par la foi, Abraham a vu son héritage spirituel pour sa postérité. Il a compris que tout le pays de Canaan sera l'héritage d'Israël. Et au chapitre 22, pour terminer, Dieu l'a envoyé un jour donc au mont Morija, où il devait offrir son fils unique, Isaac. Je lis seulement, il y a beaucoup à dire là-dessus, énormément. Je lis seulement le verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Morija, c'est Sion, l'autel des holocaustes dans le parvis du temple. Et Morija, c'est Golgotha, l'autel de Dieu, la croix de Golgotha, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Donc Morija a plusieurs sommets, dont Sion et Golgotha. Donc nous voyons comment, par la foi, Abraham accepta d'offrir à Dieu en sacrifice Isaac, son fils unique, le bien-aimé, le fils de la promesse, type de Jésus-Christ, mort à Golgotha, et en prévision de ce sacrifice, matin et soir, l'agneau de Dieu, un agneau, en prévision de l'agneau de Dieu, était offert sur le grand autel des holocaustes dans le parvis du temple, en sacrifice perpétuel. Donc, par la foi, Abraham eut toujours avec lui sa tente, signe de son pèlerinage ici-bas, et son autel, symbole de son adoration du vrai Dieu. Le chrétien est un pèlerin passé par la croix, à Golgotha, l'autel de Dieu de Golgotha. Il est donc mort au monde, mort au péché, mort au matérialisme, mort aux convoitises, et en Afrique, j'insiste toujours, mort au royaume des ténèbres. On n'a plus à craindre Satan, les démons et les sorciers dans une église évangélique digne de ce nom, puisque Jésus, sur la croix, a remporté une victoire définitive, unique et totale sur le royaume des ténèbres. Et le chrétien qui a compris cela peut donc librement adorer son vrai Dieu, étant libéré de toute forme d'idolâtrie que représente l'attachement à l'argent, au bien matériel que Dieu nous confie pour le servir là où il nous a placés, selon les dons que nous avons reçus. Pour sa seule gloire, nous devons glorifier Dieu comme Abraham l'a fait avec sa tente, avec l'autel. Au nom de Jésus. Amen.
Je vais demander aux musiciens de venir me...